On prend des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
La recherche sur l'immigration francophone porte à la fois sur les chiffres et sur l'expérience humaine. Il en est question dans Francopresse.
Oui, c'est que 3 ans après l'ouverture de l'Observatoire en immigration francophone au Canada, c'est la professeure Linda Cardinal qui a présenté une recension des écrits où elle explore les différentes perceptions de l'immigration au Canada depuis les années 60. Avant les années 60, après la guerre, on est passé d'une question de race et de nationalité au capital humain en 1960, puis à la part économique des immigrants dans les années 1980. C'est en 1990 que la francophonie canadienne a commencé à se poser la question, ou la francophonie en général, incluant le Québec, sur la compatibilité de l'immigration avec la francophonie et le bilinguisme dans le reste du Canada. Puis, à l'extérieur du Québec, on a commencé aussi à cette époque-là à réfléchir de façon utilitaire à l'immigration par rapport aux besoins des communautés francophones pour aboutir à la première cible en immigration francophone en 2008. Un élément intéressant qui est soulevé par le professeur Cardinal, c'est que les recherches sur l'immigration du côté du Canada anglais évacuent largement la question de la langue dans leur étude. C'est que c'est surtout analysé du côté utilitaire économique. Ça provoque une espèce de ressac côté anglais qui s'est manifesté notamment l'année dernière. Là, j'avais fait un texte là-dessus sur les débats entourant les points supplémentaires accordés à la connaissance du français dans le programme Entrée Express, qui est un des nombreux programmes d'immigration au Canada. Du point de vue de certains anglophones, ces points-là retirent des places pour les candidats, des candidats encore plus compétents, selon eux, qui ne parlent pas nécessairement français. Puis, selon la professeure, il reste plusieurs questions à étudier dans ce domaine-là, notamment l'accès au logement pour les immigrants, aux nouvelles technologies, puis les réalités différentes vécues par les femmes migrantes.
Sinon, des pêcheurs de la péninsule acadienne sont en difficulté.
Sur l'île de la Mecque, et de l'avant-dernière île, juste au bout de la péninsule acadienne, il se trouve sur cette île-là, une importante usine de transformation de produits de la mer qui est en activité depuis 1943. L'usine appartient à une coopérative de pêcheurs, puis on y transformait des poissons et des fruits de mer qui venaient de ces pêcheurs-là, mais de d'autres sources aussi. Au mois d'août, la coopérative s'est placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en raison d'une dette de 25 millions de dollars qu'elle n'est plus en mesure de rembourser. Donc, on cherche à se protéger de nos créanciers en attendant qu'on trouve une solution. L'usine a accumulé les déficits depuis 2018, puis c'est dans les articles de la Cadie Nouvelle, on rapporte que la perte de la transformation de la crevette en 2024, là, il y avait eu une baisse des quotas, a aggravé la situation encore plus. La coopérative essaie de se restructurer, mais pour y parvenir, elle a fermé l'usine de transformation jusqu'au printemps. L'impact de ça, c'est que plusieurs travailleurs qui n'ont pas accumulé assez d'heures ou de semaines de travail pour être admissible à l'assurance emploi. Donc, il y a plusieurs familles qui se retrouvent en difficulté financière avec des dettes à payer sans le revenu qu'elles avaient avant. Le gouvernement fédéral, lui, est sollicité, mais dit avoir déjà versé beaucoup d'argent à la coopérative, tandis que les règles de l'assurance emploi ne peuvent pas être modifiées facilement. Donc, la question est d'être réglé pour l'usine et les travailleurs.
Oui, la question est loin d'être réglée, en effet. Dans le droit, 2 étudiants sur 3 ne retourneront pas à l'Université de Sudbury.
Je vous ai parlé il y a quelques semaines, au début de l'été, je crois, du fait que les étudiants de l'Université de Sudbury n'étaient pas admissibles au régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario. La situation n'a pas été réglée au cours de l'été, ce qui fait que plusieurs étudiants n'ont pas les moyens de revenir à l'université. Selon le droit, ce qu'ils ont pu constater, c'est que sur les 30 étudiants qu'il y avait à la fin de la session au mois de mai, qui ont terminé leur première année à l'Université de Sudbury, il y en a seulement 10 qui vont revenir. Il y a une bonne nouvelle derrière ça, c'est que l'université a accepté 67 demandes d'admission cette année, ce qui est une augmentation de 10% par rapport à la première année. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous s'inscrire, mais pour le recteur Serge Miville, ça indique qu'il y a un intérêt soutenu pour la formation qui est offerte à l'université. Pour aider les étudiants qui restent et qui veulent s'inscrire, l'université a augmenté ses propres bourses grâce à ses fonds de réserve, puis elle cherche d'autres solutions de financement pour les étudiants, entre autres avec l'aide d'institutions financières. Puis, du côté du gouvernement, le droit n'a pas eu de réponse, n'a pas eu de mise à jour concernant l'admissibilité des étudiants au programme de bourse. En juin, on disait qu'on travaillait là-dessus, mais ça n'a pas l'air d'avoir avancé.
Une poursuite pour l'éducation francophone se prépare au Manitoba.
Et M. Stéphane Allard, qui est un ancien représentant du commissaire aux langues officielles pour la région Manitoba-Saskatchewan, qui lance cette procédure-là. Il dénonce un peu le déséquilibre et le manque d'équité en éducation entre le réseau anglophone et le réseau franco-manitobain. Depuis longtemps, il est allé chercher 20 000 $ au programme de contestation judiciaire pour amorcer des recherches et élaborer une cause qui serait liée à ce déséquilibre-là pour essayer de le régler. Il donne quelques exemples d'inégalités. Par exemple, à Winnipeg et ailleurs en province, il y a certaines régions où il n'y a pas d'école francophone proche. Donc, les enfants doivent faire environ une heure en autobus pour aller et revenir de l'école.
Ah, et aussi,
ça peut être long pour quelqu'un, pour les jeunes. Les écoles francophones offrent aussi moins de programmes et d'activités, ce qui pousse certains à inscrire leurs enfants dans les écoles anglophones. C'est juste le début de la démarche. M. Allard est en train de terminer le choix de la firme d'avocats qui va l'appuyer, puis il espère déposer un dossier assez solide pour aller chercher une autre tranche de financement pour avancer dans sa cause.
L'Aquilon, maintenant, parle d'une quarantaine d'élèves qui quittent Alain Saint-Cyr. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le prononcer, Alain Saint-Cyr,
oui.
De Yellowknife?
Oui, oui. Oui, on a peut-être ici un exemple de ce qui peut arriver si M. Allard perd sa bataille au Manitoba. C'est que l'école francophone de Yellowknife dit avoir perdu 40 élèves pour la rentrée, ce qui est presque la moitié de ses élèves de la 6e à la 12e année. Donc, c'est 40 de moins par rapport à juin. La commission scolaire a voulu savoir pourquoi les parents avaient décidé d'inscrire leurs enfants ailleurs. Elle a donc envoyé un sondage aux familles qui avaient pris cette décision-là. Il y a quand même des points positifs dans les réponses, c'est-à-dire que les parents disaient qu'ils étaient très satisfaits de l'éducation offerte, puis de l'enseignement, puis de l'environnement scolaire. L'enjeu n'est pas là. Les raisons principales évoquées pour les changements, c'est le manque d'espace dans l'école, parce qu'elle est plus petite que les autres. Il y a une moins grande offre d'activités parascolaires, puis il y a aussi un désir que leur enfant puisse socialiser avec encore plus d'élèves dans une école plus grande. Il y avait aussi, pour les plus vieux, ceux qui sont à la fin de leur secondaire, un désir de se préparer à des études postsecondaires en anglais, donc de finir leur secondaire en anglais. La commission scolaire souligne que c'est pas, il n'y aura pas d'impact sur le personnel de l'école pour le moment parce que le financement attribué selon les chiffres de l'année précédente. Donc, il va falloir surveiller l'année prochaine si le financement diminue.
Et on termine avec une nouvelle qui est tirée de La Voix acadienne. Tout ce que vous aimeriez savoir sur l'Acadie dans une application, c'est intéressant, ça. Ça pique notre curiosité,
oui.
En tout cas.
Surtout si vous avez des racines acadiennes, vous allez peut-être être intéressé par cette application-là qui s'appelle tout simplement Acadie. Elle contient des courtes descriptions sur les lieux et les faits historiques de l'Acadie. Il y a aussi une section sur l'origine des noms de famille qui, d'après le texte de La Voix acadienne, est amusant à lire. Puis, par contre, l'auteur reproche une trop grande présence ou une présence trop évidente de l'intelligence artificielle dans certains éléments. Puis on nous dit que c'est juste une première version, là, il va y avoir des mises plus tard. Si ça vous intéresse, c'est disponible pour les iPhone et iPad en ce moment, mais on développe une version Android prochaine pour les prochains mois.
Super, belle initiative. Julien Caillouette, un grand merci pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.